l'histoire de Pinocchio nous emmène dans un village endormi au cœur des montagnes. Seul un petit grillon transi de froid explore les ruelles désertes à la recherche d'un endroit chaud pour passer la nuit. Il se dirige en sautillant vers une fenêtre éclairée, c'est celle de Geppetto, le sculpteur sur bois. Notre grillon, il s'appelle Jiminy Cricket. Notre grillon pénètre dans le logis baigné par la douce chaleur de la cheminée. Oh, qu'il fait bon! Et à l'intérieur, quelle surprise! Des horloges sculptées, des jouets de bois et des boîtes à musique ornées de personnages qui n'attendent qu'un tour de clé pour s'animer. À la lueur du foyer, le vieux Geppetto met le dernier coup de pinceau à sa dernière création, un pantin de bois qu'on manipule avec des fils. Il contemple son œuvre, il l'appellera Pinocchio. À ses pieds, Figaro, le chat, grimace en fronçant le museau. Est-ce qu'il ne serait pas un peu jaloux? C'est bien possible, car Geppetto est vraiment fier de son pantin. Avec son nez droit, ses yeux bien ouverts, son pantalon rouge et son chapeau à plumes, ce petit bonhomme est déjà très attachant. On croirait presque qu'il sourit. Quant à Cléo, la demoiselle poisson rouge, elle accueille le nouveau pensionnaire de l'atelier en entamant une danse tourbillonnante au fond de son bocal. Par la fenêtre ouverte, Geppetto entrevoit dans le ciel l'étoile des souhaits qui, parfois, réalise les vœux que l'on forme. Et le vieux monsieur se prend à rêver. Si son pantin de bois devenait un vrai garçon, mais ça lui semble impossible, et il s'endort en soupirant. À peine le silence s'est-il installé dans l'atelier qu'une lumière bleue envahit la pièce. Intrigué, Jiminy écarquille les yeux et voit apparaître une fée. C'est la fée bleue, si douce, si belle, descendue de son étoile pour exaucer le vœu de Geppetto. Elle se penche sur Pinocchio et du bout de sa baguette lui accorde le don de marcher et de parler sans fil, sans ficelle, presque un véritable enfant, presque. Car pour le devenir, il faudra que Pinocchio se montre brave, franc, loyal, et obéissant. C'est souvent difficile de bien se conduire, alors la bonne fée lui accorde une conscience, c'est-à-dire un petit compagnon qui l'aidera à être sage et raisonnable. Qui va-t-elle désigner à votre avis? Jiminy, Jiminy, qui montre le bout de son nez fort à propos. Il promet d'accompagner Pinocchio dans tous ses déplacements et de lui indiquer à chaque fois la bonne route à suivre. Une fois la fée bleue disparue, Geppetto, éveillé par tout ce remue-ménage, trouve son pantin qui parle et qui marche. Son vœu est exaucé. Oh, le vieux monsieur n'en croit pas ses yeux. Il est désormais le plus heureux des hommes. Dès le lendemain, en route Pinocchio. C'est le grand départ pour la première journée d'école. Gare au danger, petit bonhomme, car la rue est pleine d'embûches. Jiminy l'accompagne, bien décidé à remplir son rôle avec beaucoup de sérieux. En chemin, leur route croise celle de Gédéon et de Grand Coquin, deux brigands très malins, toujours prêts à jouer quelques méchants tours. Pinocchio, qui ignore tout du monde et de ses dangers, est une proie facile. Il suffit de quelques phrases de Grand Coquin, et voilà qu'il ne sait plus à quoi sert l'école, ni ce qu'il va y apprendre. Il est même persuadé qu'un brillant avenir l'attend, devenir acteur chez Monsieur Stromboli, par exemple. Monsieur Stromboli, c'est le directeur d'un théâtre de marionnettes qui vient justement d'arriver en ville pour y présenter son spectacle. pour ce montreur de marionnettes, l'arrivée de Pinocchio dans sa troupe serait une aubaine. Un pantin sans ficelle, c'est le succès assuré. Monsieur Stromboli aime beaucoup l'argent vite gagné. Les deux filous entraînent Pinocchio vers une gloire si facile et la représentation est un triomphe. Et les caisses du théâtre sont bien remplies. À peine le rideau tombé, Pinocchio se retrouve enfermé dans une cage. Dans la nuit pluvieuse, la roulotte brinque-ballante de Stromboli l'emporte vers d'autres villes. C'est donc ça le brillant avenir promis par Gédéon et Grand Coquin. Et Stromboli ne plaisante pas. Si Pinocchio se rebelle, il finira dans la cheminée en bois à brûler. Quelle horreur! Le petit pantin est désespéré. Heureusement, Jiminy n'a pas abandonné. Mais que peut faire un petit grillon contre une serrure bien cadenassée? La fée bleue, qui décidément semble tout voir, apparaît une nouvelle fois. Quand Pinocchio tente de lui expliquer comment et pourquoi il s'est retrouvé dans cette cage, il se sent coupable et n'ose pas dire la vérité. Alors il s'embrouille, raconte des mensonges, et à chaque nouveau mensonge, son nez s'allonge. S'allonge, il grandit, grandit, jusqu'à mesurer au moins un mètre. À tel point que la fée, qui a tout compris, l'arrête dans ses explications. Pour cette fois, elle lui pardonne et lui redonne sa liberté. Mais à une condition toutefois, qu'il se conduise enfin comme il faut. Pinocchio promet. Il a eu chaud. De leur côté, Gédéon et Grand Coquin continuent leur mauvais coup. Ils viennent de conclure un marché avec un homme qui les charge de trouver pour lui des méchants petits garçons, des garnements. Rien de plus facile pour ce beau parleur de Grand Coquin. Il lui suffira de promettre aux enfants un voyage dans l'île au plaisir. Là-bas, quelle mauvaise surprise leur réserve-t-on? Nous allons bientôt le savoir. Car dès le lendemain, Pinocchio, toujours aussi naïf, retombe dans les pattes des deux crapules et abandonne à nouveau le chemin de l'école. Cette fois-ci, il embarque dans un bateau pour l'île au plaisir. Et Jiminy, toujours sérieux dans son rôle de bonne conscience, est bien décidé à suivre son petit pantin, quoi qu'il arrive. Après quelques moments de bonheur dans l'île au plaisir, des gâteaux, des bonbons et même du tabac à profusion, Jiminy comprend vite quel sort attend les enfants. Ils seront tous transformés en ânes. Affublés de longues queues et d'oreilles pointues, à quatre pattes désormais, les plus méchants d'entre eux se retrouvent enfermés dans des caisses, prêts à être expédiés pour travailler dans des mines de sel. Fini de rire. D'ailleurs, ils ne rient plus, mais ils braient comme de véritables petits ânes qu'ils sont devenus. La punition est bien dure, même pour des garnements désobéissants. Pas question que Jiminy laisse Pinocchio se transformer définitivement en âne. Il faut vite fuir, déjà sur sa tête apparaissent deux grandes oreilles. Une queue vient même de lui pousser. Jiminy entraîne son ami loin de cet endroit de malheur. Direction la maison. En arrivant, personne. Un message leur annonce que Geppetto, parti à la recherche de son fils, a été avalé par Monstro la baleine. et qu'il est retenu prisonnier dans son estomac. N'écoutant que son courage, Pinocchio se précipite à son secours et hop, il plonge dans la mer, suivi par Jiminy, toujours fidèle. Oh, que c'est beau! Nos deux petits aventuriers écarquillent les yeux. Poissons multicolores, hippocampes, coquillages. Allez, ni une ni deux, Pinocchio part à la recherche de monstres. Où se trouvent-elles? Impossible de le savoir, car à chaque fois que Pinocchio les interroge, les habitants de la mer s'enfuient sans répondre. Elle est donc si terrible, cette baleine? Oh oui, elle est terrible! C'est un vrai monstre! Monumental, gigantesque, avalant des milliers de litres d'eau en une gorgée. Dans son gosier, les poissons disparaissent sans espoir de retour. C'est ainsi que Geppetto a été englouti. Quant à Pinocchio, pas peureux pour un sou, il profite du moment où le monstre entrouvre sa large mâchoire pour être avalé en même temps qu'un banc de poissons. Et en effet, le voilà, quelques instants plus tard, dans l'estomac de la baleine. C'est drôlement bizarre, le fond de cette baleine. C'est grand, comme une caverne. C'est sombre. Et quand on parle, on entend la voix qui résonne, qui résonne, qui résonne. Au fond de l'estomac, Pinocchio se dirige vers une étrange lueur, une épave de bateau échoué. En s'approchant, Pinocchio reconnaît Geppetto. Ça y est, il a enfin retrouvé son père. Le vieux monsieur Cléo et Figaro n'en croient pas leurs yeux. Les retrouvailles sont délicieuses et les malheurs oubliés. Même si Geppetto, en voyant les oreilles et la queue d'âne, comprend que son petit garçon n'a pas dû être très sage. Oh, qu'importe! Mais comment sortir d'ici? Monstro avale tout, mais rien n'est jamais sorti de son énorme gueule. Geppetto est désespéré. Ils vont mourir perdus dans cet immense estomac flottant. Eh bien non, car Pinocchio a une idée. Allumer un grand feu. La fumée qui se dégagera des flammes forcera la baleine à éternuer. Le souffle de l'éternuement les fera sortir. Avec les débris du bateau de Geppetto, Pinocchio a vite fait de construire un radeau et d'allumer un feu. La fumée envahit le ventre de Monstro. Dans un énorme hoquet, l'animal expulse le radeau. Tout va bien, non ! Car Monstro est en furie. Elle poursuit ses assaillants, bien décidée à ne pas les laisser s'échapper. Le petit pantin de bois courageux rame en perdre le souffle. Geppetto est épuisé. Pinocchio l'encourage. Plus vite, il faut ramer encore. La plage et les rochers ne sont plus très loin. Hélas, d'un coup de queue, Monstro fracasse le radeau. Geppetto coule, Pinocchio ne veut pas abandonner son père. Avec une énergie incroyable, il le tire derrière les rochers, bien à l'abri du monstre. Tous sont sains et saufs. Tous? Non. Là, dans une flaque d'eau, Pinocchio repose, inanimé. Geppetto, désespéré, rapporte le pantin dans sa maison et l'allonge sur son lit. Au péril de sa vie, Pinocchio a sauvé son père et tous les autres. La fée bleue lui avait demandé de se montrer brave, franc, loyal et obéissant. Eh bien, justement, la voici, la fée bleue, entourée d'une poussière d'étoiles. Elle ranime Pinocchio et le transforme en un petit garçon bien vivant, en chair et en os. Geppetto peut être heureux, il est devenu le papa d'un vrai petit garçon, comme dans son rêve. Alors, pour célébrer l'événement, toutes les pendules carillonnent, les boîtes à musique s'animent, l'atelier est en fête. Jiminy a si bien rempli sa mission qu'il reçoit une récompense, une belle médaille en or massif, et dès ce soir, il reprendra sa route, d'une maison à l'autre, comme tous les grillons. Et là-haut, dans le ciel, au-dessus du village, l'étoile des souhaits semble briller un peu plus fort que d'habitude.